continent américain, en Argentine, cette fois Javier Milei.
Radio G. 101.5 FM.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Voix de l'Écho, l'émission où l'on parle d'initiatives locales, de belles idées, de métiers passions et de toutes ces façons de donner du sens à notre manière de consommer, de travailler et d'habiter le monde. Pendant 50 minutes, on va parler fil, tissu peut-être, aussi retouche, vernis, plein de choses, on ne sait pas, on va voir. En tout cas, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, sans qu'on y pense forcément. Nous allons parler de nos meubles. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans l'émission Mes fidèles chroniqueurs, on commence avec la coach alchimique Anne Texereau. Bonjour Anne, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour chers auditeurs. Eh bien aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, j'ai envie de vous parler de paix et d'harmonie.
De paix et d'harmonie. On vous écoutera en deuxième partie d'émission et également notre communicant et conférencier Alexis Desjeux. Bonjour Alexis, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Nous allons parler des bienfaits des réseaux d'entreprise pour cultiver son assertivité au quotidien.
Et on trouve votre chronique dans une dizaine de minutes. Et oui, une émission qui est également en direct sur YouTube. Si jamais vous entendez des petites interférences, c'est la gestion du streaming. Je pense que l'ordi a un peu de mal à gérer. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de meubles. Et oui, les meubles que l'on a hérités, ceux qu'on a trouvés sur Internet, par exemple, qui traînent en attendant quelque chose, on ne sait pas quoi encore exactement. Et si au lieu d'acheter du neuf, à chaque déménagement ou à chaque envie de changement, on apprenait à regarder autrement ce qu'on a déjà. On ne sait pas, peut-être un vieux buffet, une commode un peu passée de mode, une table bancale, une table basse, voilà. On peut revaloriser des choses et c'est exactement ce que notre invité du jour va nous dire. Je reçois aujourd'hui Alexandre Chevalier des meubles Néron. Bonjour Alexandre, merci d'être, attendez, hop, je vous remets le micro, c'est peut-être mieux, allez-y.
Ah oui, bonjour.
Ah ouais, on vous entend mieux, hein. Ah là 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 là, vivement les vacances, hein. C'est la dernière de 2025, on se retrouvera ensuite au mois de janvier. J'ai même pas mis ma virgule, vous vous rendez compte quand même, c'est dingue, je mets quand même ma petite virgule et on y va, si ça marche, parce que là j'ai l'impression que l'ordi...
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Ouais, l'ordi a un peu de mal aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc Alexandre Chevalier, merci d'être avec nous sur le plateau de Radio G, en tout cas le studio. Si vous deviez présenter donc les meubles de Néron à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, justement, en quelques phrases, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors, les meubles de Néron, c'est une entreprise que j'ai montée en 2020. Ça va faire déjà 5 ans. Et c'est une entreprise dans laquelle je revalorise des meubles d'occasion. Donc, que ce soit des meubles que vous possédez déjà ou que je peux chercher pour vous. Ça dépend vraiment du besoin. Et l'idée, c'est de pouvoir leur redonner une seconde vie et qu'ils puissent réintégrer des décos plus modernes et plus actuelles.
D'accord. Et alors justement, d'où vient le nom, les meubles de Néron? Parce que bon, Néron, au niveau, je sais pas, mythologie pas trop, mais en tout cas...
Il a pas bonne presse
quand même.
Alors Néron, c'est mon chat, tout simplement. Je suis historienne de formation et j'aime beaucoup l'antiquité romaine. Et quand je l'ai trouvé, il était tout petit, très mignon, et je voulais un nom un peu de méchant, sans que ça fasse trop méchant pour autant. Donc on est parti sur Néron et ça lui va très bien, il a... Le même caractère, c'est... il le porte très bien.
Alexane, vous avez donc un parcours lié justement à l'histoire de l'art et aussi les bijoux. Qu'est-ce que vous avez gardé de tout ça, en fait, dans votre travail aujourd'hui sur les meubles?
Je dirais surtout un goût pour l'esthétique, qui est très important dans mon travail, parce que l'idée, c'est que le meuble que je vais, sur lequel je vais travailler soit beau par la suite. Donc j'ai vraiment un goût pour l'art en règle générale et j'aime bien mettre un petit peu de ça dans mon travail actuel, tout simplement.
D'accord. Et à quel moment vous vous êtes dit allez, je me lance, j'ouvre mon entreprise et je me consacre aux meubles?
Ça a été très très long, Alors du coup, pour faire rapidement le topo, donc je suis historienne de formation, j'ai un master en histoire de l'art, spécialisation histoire du bijou. Donc j'ai travaillé en joaillerie pendant 5 ans sur Paris puis sur Angers. Et le Covid est arrivé, je m'ennuyais, ma boutique était fermée et j'avais acheté un meuble juste avant, un meuble en bois, pas très joli, et j'avais un pot de peinture qui traînait, donc ça a commencé comme ça. J'ai fait mon premier meuble pendant le Covid à la maison avec Néron, c'est aussi pour ça que ça s'appelle les meubles de Néron. Et mon conjoint m'a dit bah, c'est plutôt joli, tu devrais le mettre sur Instagram, tu devrais essayer juste pour voir ce que ça donne. Et puis bah j'en ai fait un, j'en ai fait deux, et puis bah j'ai voulu commencer à les vendre, donc j'ai juste monté ma micro-entreprise à côté de mon travail salarié, parce que j'étais encore salariée en 39 heures, donc vraiment je sais, avoir un rythme assez classique. Et bah de fil en aiguille j'ai commencé à me faire connaître, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie et j'étais à un carrefour où bah ça a été un peu qu'est-ce que je fais en fait, est-ce que je continue alors que je suis pas vraiment heureuse dans mon travail salarié, alors que j'ai quelque chose qui me botte vraiment, mais en même temps ce quelque chose qui me botte vraiment bah il est assez risqué pour en vivre, donc ça a été un gros chemin. Et et le point un petit peu culminant de tout ça, c'est que mon petit frère a eu un grave accident de voiture, vraiment très grave, et je me suis dit mais en fait on n'a qu'une vie et il faut que j'y aille, et j'y suis allée. Voilà.
Ouais. Oser, c'est le maître mot quand on entreprend. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans le fait d'être artisane indépendante par rapport à votre précédente expérience justement?
La gestion de mon emploi du temps. Alors déjà, ça c'est pour moi très important. Parce que, par exemple, je suis quelqu'un de très matinal, donc j'adore travailler très tôt le matin, et en boutique généralement on ouvre plus tard. Donc pour moi c'est vraiment ça, et surtout bah, simplement aussi le fait de mettre les mains dans... Alors, pas forcément dans le cambouis, mais plutôt dans la peinture. Mettre les mains dans la poussière, d'avoir vraiment ce côté manuel qui, moi, me manquait beaucoup auparavant.
Tout à l'heure, en introduction, je parlais aussi un peu de fil, de tissu, mais en fait, ce que je me dis, des fois, on rajoute peut-être aussi des choses. Est-ce que, justement, vous travaillez la matière comme ça, brute, ou est-ce que, des fois, vous pouvez rajouter de l'accessoire, en fait, sur les meubles?
Je peux rajouter, alors ça peut arriver par exemple sur les chaises qui initialement vont être en bois, je peux rajouter des assises tissus, ça peut être ça.
D'accord.
Après ça peut être des petits éléments métalliques, des petites décos, mais moi ma direction artistique, si je puis me permettre, c'est plus de rester quand même sur la matière brute et rajouter de la peinture éventuellement, mais pas beaucoup plus.
D'accord. Et alors où est-ce que vous êtes situé, Alexandre? Où est-ce qu'on peut trouver les meubles de Néron? Est-ce que vous avez un showroom ou juste un atelier? Comment?
Alors j'ai juste un atelier, c'est déjà pas mal. J'ai un atelier au Poncé que je partage avec deux autres artisans qui sont Vincent Mosaïque, donc qui est mosaïste, et Marguerite qui est céramiste.
D'accord. Et vous arrivez à faire des choses ensemble, du coup, ou pas du tout?
Ça peut arriver. Alors, on n'a pas encore réussi, mais on... Alors, pour la céramique, c'est un peu plus compliqué, mais on a fait un petit concours ensemble récemment sur Instagram. Et avec Vincent, on réfléchit à faire potentiellement du mobilier en commun, ouais.
D'accord. Ouais, ça peut être sympa. Moi, je vois chez mes parents, il y a une table basse avec des carreaux dessus. J'en ai même une chez moi, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Ça peut... Peut-être pas assez de mode, mais quoique, ça peut être très sympa à refaire.
Et on en trouve plein en ressourcerie, en plus des tables comme ça, on en trouve plein, donc c'est l'idée, on y réfléchit. C'est en cours.
C'est en cours. Alexandre, je vous propose maintenant de faire un petit jeu dans l'émission. C'est parti. Si l'ordi veut bien lancer les jingles. pour ce premier jeu, nous allons parler de la boussole métier. Donc, quelques questions pour comprendre ce que vous faites. Est-ce que vous êtes prête, Alexandre ?
C'est parti.
Allez. Donc, dans votre métier, à qui rendez-vous service ?
Au particulier.
Dans votre métier, quel problème simplifiez-vous dans le quotidien de vos clients ?
Leur déco.
Ouais. Quel est votre geste métier distinctif ?
Le ponçage.
J'imagine, ouais. Quel signe observal montre que votre métier, ça marche ?
Mon chiffre d'affaires qui augmente.
Ouais.
Tout simplement.
Et à quelle question assumez-vous de dire non à votre client ?
Bonne question. Quand on me demande de repeindre des bois exotiques, par exemple, ou des bois rares.
Des bois rares, d'accord. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Alexandre, pour vos réponses.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alexandre, est-ce que vous faites partie d'un club d'entreprise ou d'un réseau pro ?
Non, pas du tout. J'étais auparavant chez Pépina, donc les ateliers partagés où j'ai passé deux ans et demi. Donc c'était une sorte de petit club. Enfin, moi, je voyais ça comme ça. Mais j'ai déménagé pour plus grand. Donc maintenant, non, j'ai plus de
rien. D'accord. Bah, justement, la force du réseautage, quand on est entrepreneur, hein, c'est un vrai levier de développement. Et c'est justement le sujet de la chronique d'Alexis Desjeux.
Mieux vivre ensemble avec assertivité. Une chronique d'Alexis Desjeux.
Bonjour chers auditeurs, quel que soit votre genre et obédience et croyances toutes personnelles. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des bienfaits des réseaux d'entreprise pour cultiver votre assertivité au quotidien. Oui, alors je sais, ceux qui nous suivent avec assiduité savent qu'il y a un an de ça, j'en avais parlé avec Thibaut Beuchet, le roi des réseaux, à qui je passe le bonjour d'ailleurs. Oui, mais voyons ensemble comment les réseaux sont un véritable terrain de formation. Ça, j'en avais pas tout à fait parlé il y a un an de ça. En fait, on va prendre l'Interclub de l'Anjou 2025, où on m'a lancé un défi, me présenter en mode décalé, 2 minutes pour partager qui je suis, mais autrement. Et en fait, vous savez quoi ? Cet exercice, apparemment anodin, m'a rappelé toute la puissance des réseaux d'entreprise pour gagner confiance en soi. Dans un réseau, j'apprends tout le temps. Et apprendre, c'est grandir.
Effectivement, Alexis, les réseaux d'entreprise sont vraiment un bel endroit pour apprendre à gagner en confiance, en soi surtout. Et alors, quelle est cette justement présentation originale dont vous nous parlez, Alexis ?
Bah en fait, on nous a lancé un défi, se présenter en mode décalé, genre portrait chinois. Alors, si Desjeux Création était un film, ça serait le cercle des poètes disparus. Cette invitation magistrale à refuser le conformisme. Si j'étais une chanson, ça serait The Bridge de Sting, qui nous encourage à créer des passerelles entre les individus pour donner du sens à nos vies. Et si j'étais un livre, ce serait Les Neuf Princes d'Ambre de Roger Zelazny, où le héros principal crée des mondes par la pensée, grande source de créativité ultime.
C'est vrai que c'est une manière originale, hein, Alexis, de présenter comme ça une agence de communication. Mais quel lien faites-vous entre cet exercice de style et l'assertivité dont vous parlez régulièrement et les réseaux ? Est-ce que c'est un duo gagnant quand vous faites ça ?
Bah oui, c'est là que ça prend tout son sens, Yves, parce qu'en fait, quand on prend le temps de cogiter sur soi, son expertise, ce qui nous démarque de nos concurrents, le bénéfice de notre marque que l'on apporte à notre cible, et on le présente à ses pairs, ben en fait, on se confronte au réel, on gagne confiance en soi, et la confiance en soi, c'est bon pour l'assertivité au quotidien. Car en communication, ce n'est pas toi que tu dois convaincre, mais c'est l'autre avec qui tu rentres en relation. Et pour cela, il faut cultiver son assertivité, défendre son point de vue tout en respectant l'autre dans sa différence. Alors, il y a un an, j'évoquais sur Radio G, comme je vous le disais, la force des réseaux qui nous aident à grandir. Ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est cette notion de... C'est vraiment un terrain d'entraînement pour notre assertivité. Parce qu'en fait, quand vous êtes solitaire face aux défis quotidiens, ben, vous pouvez vous sentir un peu submergé parfois, ou pas toujours trop bien dans vos baskets. Mais quand vous êtes en réseau, ça change, parce qu'en fait, vous êtes un élément parmi les autres, vous êtes peut-être novice parmi les anciens, mais vous découvrez en fait j'ai découvert en tout cas que 20 ans de force du collectif, ça fait grandir. Je fais un petit coucou d'ailleurs aux anciens membres de la Créa, devenus CEA, qui était mon premier réseau d'entreprise.
Alors concrètement, Alexis, comment ces réseaux deviennent-ils nos meilleurs alliés pour développer notre assertivité?
Ben en fait, on va prendre un exemple concret. Lors de nos soirées du CELA, par exemple, le club d'entreprise en Loire-Léon-Bance, on échange sur le management, la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, ou l'intelligence artificielle, ou la RGPD. En fait, ces moments nous permettent d'observer comment d'autres entrepreneurs, nos pairs expérimentés, gèrent les conflits, négocient, s'affirment. On apprend en fait en pratiquant. On défend comment défendre ses tarifs face à ses clients, comment gérer une situation délicate avec un collaborateur. Autant de moments où chacun se forme et gagne confiance en lui. Faisons un zoom sur l'exercice. Se présenter en 2 minutes avec éloquence et charisme, par exemple. Cet exercice, avec le regard bienveillant de ses pairs, permet à chacun de gagner en confiance. C'est ça, cultiver son assertivité. En fait, c'est oser s'exprimer, recevoir des feedbacks constructifs et progresser ensemble. Seul, on avance. Ensemble, on va plus loin, comme le chant de Grand Corps Malade. Alors oui, Yves, chers auditeurs, chères auditrices, les réseaux Angevins et au-delà m'ont fait grandir vitesse grand V. Alors ne restez pas seul dans votre entreprise, quelle que soit la taille de votre entreprise.
À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer, c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul, je vais vite. Ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute.
Ah, ces paroles si justes. Alors ne restez pas seul de votre entreprise, quelle que soit la taille de celle-ci. Je vous invite à cultiver vos réseaux avec audace, envie et plaisir. Et passez une belle journée, des très belles fêtes de fin d'année. Et Alexandre, avez-vous un exemple des bienfaits des réseaux dans votre quotidien pour faire grandir les meubles Néron, ou quel que soit l'exemple d'ailleurs?
Alors, bah, comme je disais, moi, j'ai pas forcément de réseau, mais je travaille avec d'autres artisans dans mon local, et c'est quelque chose sur lequel je pourrais pas revenir, je pourrais pas travailler seule désormais, parce que on n'a pas le même métier, mais on s'entraide quand même d'une certaine façon en s'encourageant. Quand il y en a un qui a pas le moral, et ben l'autre derrière va venir l'encourager, ou même ne serait-ce qu'avoir un regard extérieur sur un travail, sur une idée. Donc pour moi, c'est ça qui est important, c'est dans ce système de réseau, si je puis dire, c'est au moins d'avoir aussi, juste de pas être seul en fait, simplement.
C'est bien une forme de réseau, il y a plein de formes de réseau. Exactement. Donc merci pour ce partage, Alexandre.
Merci beaucoup, Alexis, pour votre chronique.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors Alexandre Chevalier, je voudrais savoir comment se passe justement la vie d'un meuble. Quand vous commencez par exemple à le chiner, si vous faites aussi de la chine, jusqu'au meuble fini, quelles sont les grandes étapes?
Alors ça va dépendre du meuble, mais il y a quand même des étapes un petit peu principales. Alors moi je travaille principalement sur les meubles en bois. C'est ce que je préfère et c'est ce qui est le plus... c'est les meubles en bois pour moi. Et donc on commence par la première étape, c'est déjà s'assurer que tout va bien sur le meuble, s'il y a besoin de réparation. Ça, c'est déjà une première chose. Parfois, il y a des traitements à appliquer, notamment s'ils sont mangés par les vrillettes, les xylophages. Donc, il y a des traitements qui sont spécifiques aussi par rapport à ça. Après, l'étape principale, le ponçage, qui est aussi la plus longue, bien souvent, qui est une grosse partie de mon travail. Et après, il y a... la peinture, si le client en souhaite. Et la dernière, qui est la protection, le vernis ou le huilage.
D'accord. Ouais, donc ça, c'est vraiment toutes les étapes. Et alors, quand vous voyez un meuble chez quelqu'un, par exemple, quand vous baladez, est-ce que vous vous dites des fois un truc du style « Ah, lui, je peux vraiment en faire quelque chose ».
C'est l'histoire de ma vie. Tout le temps.
Tout le temps.
Quand je suis en Chine, comme on dit... dans les brocantes, en train de chercher des meubles, j'ai un radar. Je regarde tout, mon conjoint qui est avec moi, il me dit celui-là, non, pas celui-là. Et je passe et ça va vite. Mais oui, j'analyse tout le temps, en permanence.
Tout le temps. Et alors, vous faites, j'imagine, surtout des pièces uniques, ou ça vous est déjà arrivé de faire des petites séries?
Non, c'est toujours unique. Parce que vu que je travaille vraiment sur des meubles d'occasion, c'est que la revalorisation, donc c'est en fonction de ce que je trouve, en fonction de ce qu'on me propose aussi. Donc non, jamais de doublons.
D'accord. Et est-ce que à l'avenir, des idées de faire des collections, par exemple, imaginons avec Vincent, le mosaïste, ça peut être des idées?
Ça peut être des idées. Alors après, moi, je travaille quand même beaucoup à la commande, donc plutôt avec les meubles que les gens ont déjà ou qui vont rechercher, parce que c'est ce qui me prend quasiment tout mon temps. Donc j'ai très peu de temps pour développer d'autres choses. Mais je serais pas contre, ouais. Je serais pas contre diversifier un petit peu plus tard, ouais.
D'accord. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Quand les personnes m'amènent leurs meubles ou quand je vais les rechercher, ça veut dire que vous faites aussi des recherches pour certaines personnes.
Oui, tout à fait. Ouais. Par exemple, là, j'ai des clients qui recherchent un meuble assez spécifique pour leur salle de bain, pour qu'on le transforme en vasque. Donc, je suis à la recherche active d'un buffet bien spécifique avec des dimensions bien précises depuis plusieurs mois. Donc, il faut pas être pressé parce que faut le trouver. Mais oui, parfois j'ai des gens qui me contactent en me disant voilà, je cherche un meuble pour aller là. Il me faut telle dimension et j'aime bien tel style. Voilà.
D'accord.
C'est à moi de trouver.
Mais alors, du coup. Quand on est entrepreneur, c'est beaucoup de temps. On facture aussi du forfait, du temps des fois. Si ça prend autant de temps justement de trouver un meuble, comment vous faites pour le facturer ce temps-là ?
Alors c'est un temps que je facture pas forcément, tout simplement parce que je ne garantis aucun délai de temps. C'est-à-dire que moi, des fois, je vais chiner pour le plaisir. Enfin, j'inclus en tout cas ce temps-là. J'ai un moment dans la semaine où j'y vais. Si je trouve le meuble, c'est bien. Si je le trouve pas, ce sera pour plus tard. Donc, il n'y a pas de recherche vraiment active dans le sens où je vais passer ma journée jusqu'à ce que je trouve le meuble. Faut laisser le temps et c'est ça que j'aime bien aussi dans mon métier, c'est d'avoir ce côté un petit peu lent et, et prendre le temps d'apprécier les choses quand on les trouve.
Oui, et ça, vos clients, ils le comprennent.
Complètement.
Oui, ok. Est-ce que vous avez un meuble ou un type de meuble que vous aimez le plus transformer ?
Les meubles art déco. J'adore, c'était ma spécialisation lors de mes études. C'est des meubles que j'adore, que je trouve vraiment très mignons. Ils sont très ronds, ils ont plein de volutes. Ils sont, c'est mes préférés.
D'accord. Et si on devait décrire la patte des meubles de Néron, alors pas la patte de chat du coup, pour le coup, quel mot vous viendrait à l'esprit ?
C'est coloré. Coloré, et en même temps, j'aime beaucoup le côté bois et couleur. Je vais rarement faire un meuble entièrement peint. En tout cas, on me contacte pas pour ça. Je pense que les gens, à force, voient ce que je fais. C'est plutôt le mélange couleur et bois que j'apprécie vraiment et que je fais le plus.
Ouais, qui est vraiment. Et vous avez une couleur qui revient régulièrement ou pas du tout?
Qui revient régulièrement. C'est par phase, c'est par mode. En ce moment, on est beaucoup sur le vert. On m'en demande beaucoup. Le blanc, un classique aussi. Même si des fois, j'aimerais me faire un peu plus de jaune, un peu peps, mais je m'adapte.
Ok, et quand on vous demande du coup du brut de décoffrage, juste vernis, vous le faites aussi de
bien
toute
sûr.
Façon.
Oui, bien sûr.
Oui, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... Enfin, est-ce que vous parlez aussi de l'histoire des meubles avec vos clients ? Parce que des fois, il y a quand même des choses qui peuvent être très sentimentales. Est-ce que... Comment vous prenez ça en compte ?
Et bah justement, c'est aussi une des choses qui me plaît le plus. Les meubles de mes clients, souvent, c'est des meubles qui ont appartenu à leurs parents, leurs grands-parents, en fonction des âges, ou des meubles qu'ils ont trouvés quand ils étaient très jeunes et auxquels ils tiennent beaucoup. Et c'est ça qui me plaît vraiment, c'est de me dire que ces meubles-là, on les jette pas. Ok, ils vont plus dans la déco actuelle, c'est certain, mais on a moyen d'en faire quelque chose pour qu'ils puissent rester. En plus, c'est des meubles de qualité, généralement. Je repeins pas du Ikea, ça ne m'arrive jamais, on ne m'a jamais demandé. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et moi, ça me donne aussi une petite mission de me dire, bah ce meuble-là, c'est presque comme s'il avait une âme, et je lui fais un petit relooking, quoi.
D'accord. Et est-ce que vous avez déjà un exemple d'un meuble qui vous a donné vraiment du fil à retordre ?
Ah, il y en a plein.
Ah ouais, finalement.
Ils ont tous une petite dose de fil à retordre à chaque fois. C'est souvent, ça va être des meubles très... très mouluré, avec beaucoup de détails, etc. Mais maintenant, j'ai appris aussi à m'entourer d'autres artisans et je fais appel à Carole qui fait de l'aérogommage pour certains meubles qui sont trop longs et même pour le client, c'est pas intéressant que je lui facture autant de temps de ponçage. Donc, ils m'ont donné du fil à retordre, mais j'apprends au fur et à mesure qu'ils m'en donnent de moins en moins.
De moins en moins, d'accord. Et bien justement, entre deux couches de vernis ou deux couches de peinture, hein, il est temps des fois de laisser du temps de séchage. Le temps pour nous de faire une petite pause musicale dans l'émission. Nous allons écouter Stronger de Britney Spears. On reparle de ce choix musical avec mon invité Alexandre Chevalier juste après. Bonne écoute sur Radio G.
There's nothing you can do. Oh.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours en direct sur Radio G à l'écoute de l'émission Les Voix de l'écho et je suis toujours en compagnie de mon invité Alexandre Chevalier des meubles de Néron. Vous venez d'écouter Stronger de Britney Spears, ça donne la patate. Alexandre, pourquoi avoir choisi ce titre musical? Dites-nous tout.
Parce que donc ce que je disais, c'est que je suis vraiment un pur produit des années 90. Je suis fan de Britney depuis toujours et cette chanson, moi, je l'adore parce que peu importe l'humeur dans laquelle je suis, elle va me donner la patate et puis je trouve que les paroles sont assez. Il faut les écouter aussi parce qu'on n'écoute pas assez Britney des fois.
Ouais, non, mais c'est vrai, exactement. Est-ce que vous avez le sentiment que le public ou vos clients justement sont de plus en plus sensibles à la seconde main justement, ou est-ce qu'il reste encore à faire pas mal de pédagogie?
Oh, elle restera toujours à faire, mais oui, je vois qu'il y a de plus en plus quand même de clients qui me contactent et de tous les âges. C'est ça qui est super aussi, c'est que il y a à la fois des jeunes couples qui s'installent et qui veulent soit récupérer des meubles de leur famille, soit les trouver en brocante, tout comme des couples de retraités qui veulent faire rénover les meubles qu'ils ont déjà. Donc j'ai l'impression que ça commence un petit peu à toucher tout le monde, qu'il y a une vraie prise de conscience et j'en suis très contente.
Ouais. Quand vous êtes, j'imagine avec des amis ou voilà des conversations, si quelqu'un vous dit autant acheter du neuf, ça sera plus simple que de faire un meuble, qu'est-ce que vous lui répondez?
Alors déjà, personne ne dit ça devant moi.
Ok, bon. Ils osent pas en fait.
Non, bah après en fait, je peux le comprendre parce qu'on n'est pas dans une société facile. Mes prestations, elles ont un coût, il faut être honnête. C'est de l'artisanat, je travaille en France, je paye mes cotisations en France, donc forcément, je suis plus chère qu'un meuble IKEA, faut être transparent sur ce point. Donc je comprends que pour certains, ce soit plus simple de passer que par des grandes enseignes. Après, il faut aussi se dire que parfois, c'est un choix de consommation, en fait, tout simplement. C'est aussi parfois accepter que ce soit pas dans l'immédiat, qu'on aille pas notre meuble en kit tout de suite, mais qu'on attende peut-être un petit peu plus longtemps, le temps de le trouver, le temps de me laisser le temps de le faire. C'est aussi ça, et parfois aussi d'économiser, peut-être un petit peu plus longtemps pour s'offrir un meuble vraiment durable, et pas partir sur du jetable. Parce qu'en ce moment, les meubles qui sont vendus en grande distribution, c'est du meuble quasi jetable en fait.
Ah bah oui, on le voit bien, même un déménagement et clac, ça part même en vrille hein, des fois. Justement, en termes de coût, pour nos auditeurs auditrices, le panier moyen pour la revalorisation d'un meuble, est-ce que ça existe ou pas du tout?
C'est compliqué parce que ça dépend vraiment. Enfin, en fait, je peux faire à la fois du chevet comme du buffet de corps, donc c'est très variable. Pour donner une idée, parce que le buffet, c'est ce que je gère le plus, on va être entre... C'est très large, mais entre 450 et 650 euros, en fonction de la taille, en fonction de ce qu'on veut, en fonction de l'état aussi, ça change beaucoup. Une table basse, on va être entre 150 et 250 euros, enfin voilà, dans ces gammes de prix-là en fait.
En même temps, j'allais dire, c'est pas si plus cher qu'un meuble neuf. Hein.
Mais qu'un bon meuble neuf, enfin un meuble neuf de qualité.
Oui, oui, c'est voilà, ça. C'est ça.
On va dans d'autres enseignes, on en trouve beaucoup moins cher.
Oui, ah oui, non, ça, c'est sûr, on est d'accord. on a parlé tout à l'heure des grandes étapes, justement, de vous quand vous travaillez. Est-ce que, pareil, il y a un chemin avec vos clients et différentes étapes de passage obligé en fait avec eux? Comment ça se passe?
Alors ça commence généralement toujours par une prise de contact par mail ou par téléphone, ça dépend. Je demande toujours dans un premier temps une photo du meuble pour au moins pouvoir indiquer une fourchette de tarif au client pour qu'il puisse savoir où est-ce qu'il met les pieds. Parce que après moi je vais me déplacer pour aller voir le meuble et l'idée c'est pas que je me déplace alors que le client n'a aucune idée de ce que je vais lui proposer en termes de tarif.
Bien sûr.
Déjà une idée claire. L'idée c'est pas que j'arrive et que je lui fasse peur entre guillemets. Donc il y a toujours cette étape là et ensuite une fois que j'ai vu le meuble, je peux dresser un devis vraiment définitif et c'est à partir de là que après on commence à je vais le chercher et qu'on fait après.
Ouais, j'allais justement vous poser la question, est-ce qu'on vous livre le meuble ou est-ce que vous venez le récupérer?
Les deux sont possibles mais je facture l'enlèvement et la livraison.
Oui, oui, ce qui est très logique.
Voilà.
C'est très logique. Est-ce que vous avez une histoire de meuble justement qui vous a particulièrement touché, par, je sais pas, par le lien avec la personne qui vous l'a confié ou autre?
Ah, il y en a plein. Mais généralement ce que je trouve le plus touchant, c'est par exemple j'avais une cliente qui était assez jeune, je pense dans la vingtaine, et qui m'a demandé de rénover la table que sa grand-mère avait peinte C'était pas très bien peint la pauvre, mais du coup elle voulait vraiment garder cette table là mais qui lui plaisait pas du tout, et elle était super contente quand je lui ai livré, ça m'avait vraiment fait plaisir. Récemment j'ai aussi refait un cheval de bois qui était à une cliente qui l'a acheté quand elle avait je crois 19 ans. Elle m'avait dit ça fait un moment qu'elle l'a, et elle lui plaisait plus du tout. On l'a refait en zèbre.
D'accord.
Faire un zèbre, et maintenant, enfin, c'est pareil. Elle est très contente. À chaque fois, en fait, ce qui me plaît le plus, c'est de voir surtout à quel point les gens sont contents et heureux de récupérer des meubles auxquels ils tiennent, en fait, de base.
Carrément. Et est-ce que vous faites aussi des motifs, ou c'est juste de la peinture, on va dire des aplats de couleurs, ou des fois vous permettez de faire du pochoir ou ce genre de choses?
Plutôt à plat de couleurs, les pochoirs c'est pas trop mon truc, et généralement les gens me contactent pas forcément pour ça. Je pense que à force de poster beaucoup sur mon site, sur les réseaux, on voit globalement ce que je fais.
Oui.
Et vu que c'est pas du tout quelque chose que je présente, on me le demande pas. Après, si on me le demande, je le fais, mais c'est pas mon truc.
C'est pas votre truc. Ok. Alexa, je vous propose maintenant de faire un deuxième jeu dans l'émission.
Ça marche.
Allez, jingle. Alors, pour ce deuxième jeu, nous allons faire un vrai faux express. C'est-à-dire que vous allez juste répondre par vrai ou faux.
Oula, ok.
D'accord. Est-ce que vous êtes prête?
Ça marche, c'est parti.
Allez. Repeindre un meuble ancien fait forcément perdre de la valeur.
Faux.
Est-il plus écologique d'acheter un meuble relooké que d'acheter un meuble neuf en grande surface?
Relooké.
Donc,
faux. Bah, faux, vrai, je sais plus.
Oui, donc du coup, c'est vrai.
C'est vrai.
Du coup. on peut transformer quasiment n'importe quel meuble à condition d'y passer assez de temps.
Vrai.
Le plus dur dans votre métier, ce n'est pas la rénovation, c'est de trouver de bons meubles à chiner.
Faux.
Les clients vous demandent de plus en plus de couleurs vives et originales sur les meubles.
Vrai.
Un meuble d'occasion revalorisé peut être aussi solide, voire même plus, qu'un meuble neuf.
Vrai.
Les réseaux sociaux sont aujourd'hui indispensables pour faire vivre les meubles de Néron.
Vrai. Je suis mitigée.
Vous avez déjà regretté d'avoir vendu, par exemple, un meuble parce que vous y étiez trop attaché.
Vrai.
La plupart des gens sous-estiment le temps réellement nécessaire pour rénover un meuble correctement.
Trois fois vrai.
Merci beaucoup, Alexandre, pour vos réponses.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, je vais vous poser une question un peu capillotractée, je pense, Alexandre, mais est-ce que vous vous sentez en harmonie avec les arbres quand vous travaillez vos meubles?
En harmonie avec les arbres, vous avez dit?
Ouais, avec le bois. Tout
non, enfin, pas l'impression.
Okay,
plus avec le côté meuble, vraiment. Je parle beaucoup à mes meubles, bizarrement, mais je prends pas en compte vraiment l'arbre en tant que tel derrière.
D'accord. Ok. Bah justement, on va parler maintenant de paix et d'harmonie. C'est le sujet de la chronique d'Anne Texor. J'avais dit c'était un peu capillotracté mon truc. Hein.
C'est vrai.
Je sème donc je suis, une chronique de la coach Anne Texoro.
Actuellement, nous pouvons ressentir les uns les autres un sentiment d'impuissance face au monde et ses déséquilibres. Crises répétées, guerres et catastrophes relayées largement par les médias et qui, tels des leitmotifs, s'inscrivent dans nos esprits. Quand j'exprime cela, je ne nie pas ces situations terribles, ni les êtres humains qui doivent faire face à ces épreuves. Et j'ai conscience aussi que d'autres événements difficiles peuvent survenir. Mais je vous invite à ne pas nourrir ces scénarios par vos doutes et vos peurs, car cela crée un égrégore de formes pensées qui n'appelle ni la paix ni l'harmonie. En creusant un peu plus la question, je me suis demandé si chacun d'entre nous n'avait pas participé inconsciemment, voire consciemment, à ces déséquilibres. Car bien souvent, nous donnons notre énergie et nos avis pour tous ces sujets d'actualité qui continuent de nous opposer. Savez-vous que nous créons notre propre réalité à partir de nos pensées? Chaque pensée porte une fréquence, une vibration, et par notre conscience, nous pouvons nous relier à des pensées de peur, de jugement, de colère, voire de haine, ou bien des pensées d'harmonie, de paix, de justice et d'amour. Nos pensées polluent ou nos pensées réparent. De façon concrète, établir la paix dans le monde procède d'un changement de posture pour chacun d'entre nous, et cela même dans les situations banales de la vie. Par exemple, peut-être vous vous retrouvez dans un embouteillage et vous pestez contre certains automobilistes, ou vous êtes au travail, en réunion et vous jugez hâtivement les propos d'un de vos collègues, ou encore en famille, vous créez maladroitement des tensions. Alors revenons à ces deux maîtres mots, paix et harmonie. Pour vous éclairer, j'ai envie de vous partager deux études concrètes intéressantes qui ont défié les lois classiques de la science. Une première étude met en avant des méditants qui se réunissent pour méditer à distance pour des patients atteints de pathologies lourdes. Cette étude a montré qu'après un temps de méditation, les médecins ont pu constater un mieux-être, voire un chemin vers la voie de guérison pour certains patients. La deuxième étude parle également de personnes qui se sont retrouvées pour méditer ensemble. Après quelques jours de méditation, l'étude a montré qu'il y avait eu une baisse de la criminalité précisément sur le lieu où les personnes méditaient. On peut se poser la question, mais que s'est-il passé? Qu'ont fait ces méditants? Eh bien, ils ne sont pas allés bien loin, non? Ils sont descendus dans l'espace du cœur, dans cet espace sacré. Ils se détendent, posent une intention peut-être, par exemple la guérison, ou encore ils inspirent la paix et l'harmonie sur Terre. Énergétiquement, leur état d'être infuse en eux et sur l'environnement. Cela vous paraît simpliste? Et pourtant, notre cœur est un organe puissant qui peut émettre un champ toroïdal électromagnétique vaste. On parle alors de l'intelligence du cœur au niveau énergétique. Nous pouvons alors déduire que depuis la vibration de notre cœur, chacun peut émettre une onde de paix et d'harmonie. Alors, pour cette fin d'année 2025, je fais le vœu que chacun puisse émettre une vague de paix et d'harmonie autour de lui. Alexandre, j'ai une question pour vous. Quel vœu peut-être faites-vous pour Néron et le chat et les meubles?
Que Néron continue sa petite vie, il va très bien, donc que ça continue comme ça, que sa petite sœur aille bien aussi. Et si je dois parler pour mon entreprise, et bah tout simplement qu'elle continue sur sa lancée qui est plutôt bonne pour l'instant.
Ah, bravo.
Merci beaucoup Anne pour votre chronique harmonisante. Et toujours ma virgule qui fonctionne pas. Ah là là, c'est pas grave. Si ça va marcher.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors Alexane Chevalier, quelle part de votre temps vous consacrez justement au travail manuel par rapport à tout ce qu'il y a à faire quand on gère une entreprise?
C'est un bon gros 90%, hein. Ouais. Au moins, je pense.
Ok. Ouais. Ouais, vous arrivez vraiment à... En fait, aujourd'hui, c'est les personnes qui viennent à vous. Vous n'avez pas forcément besoin de faire de la prospection commerciale.
Non, j'ai de la chance en ce moment. Effectivement, depuis quelques mois, j'ai beaucoup de demandes et donc ça se fluidifie en fait sur les semaines. Je fais quand même attention à maintenir une bonne présence sur les réseaux, dont Instagram, qui est mon canal principal. Et j'ai un site internet aussi que j'essaye de maintenir... J'allais dire à flot, mais non, il est très bien. De continuer à alimenter.
D'accord. Est-ce que aujourd'hui vous trouvez que votre quotidien d'artisane est plus difficile que votre quotidien de salarié?
Il l'est beaucoup plus, mais il est aussi beaucoup plus intéressant.
Ouais.
Et beaucoup plus, on va dire, motivant et inspirant.
Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous dites, je suis content de faire ce métier finalement.
Exactement, complètement.
Donc vous parliez effectivement d'Instagram, donc on peut découvrir vos meubles sur Instagram, vous avez donc aussi un atelier, mais est-ce que vous faites aussi des événements, des marchés, des foires ou des salons?
Alors je ne fais pas de marché, enfin très peu, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est toujours beaucoup de logistique pour moi. Par contre je participe tous les ans à la Foire d'Angers, qui est un événement sur lequel je suis vraiment fidèle, et où vous pouvez me rencontrer, c'est en avril, j'ai plus les dates en tête, mais c'est au mois d'avril au Parc Expo.
Ouais, et justement ces moments de rencontre directe avec vos clients finalement, ça vous apporte quoi en plus?
C'est aussi de l'échange, parce que moi j'ai travaillé en boutique, donc j'aimais bien ce côté contact client, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le fait d'échanger, le fait de confronter des points de vue, proposer des idées, etc. Je trouve que c'est super enrichissant et c'est vraiment chouette. Donc c'est aussi ça qui me plaît dans ce genre d'événement, c'est de de montrer ce que je peux faire, mais sans forcément être dans le bleu de travail avec la poussière, et juste montrer les résultats finis, qui est aussi très parlant, je pense, pour les gens, et que moi je suis fière de montrer aussi.
Ouais. Alors vous avez dit que vous partagez donc votre atelier avec deux autres personnes. Est-ce que vous avez déjà créé aussi des collaborations avec d'autres personnes qui revalorisent des meubles?
Non, c'est pas encore arrivé, non, pas encore. Alors j'ai fait partie d'un petit réseau où on était plusieurs, enfin je fais toujours partie d'ailleurs, d'un site en ligne qui s'appelle Cafarnaum, sur lequel on est plusieurs revalorisateurs, rénovateurs de meubles, à poster des créations qui sont du coup achetables directement en ligne, mais pas de collaboration sur un meuble en tant que tel, non.
Ça, d'accord, ouais, c'est jamais arrivé encore. Comment vous imaginez les meubles de Néron, là, dans les, je sais pas, 2, 3, voire 5 ans?
Quelle drôle de question. je les imagine pas si différents que ça, étrangement. Mon quotidien me convient et le rythme que j'ai me convient aussi. J'espère que ce sera encore plus pérenne que ça ne l'est maintenant, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'effectivement, je me dégage un salaire, mais en tant qu'entrepreneur, on a envie toujours d'évoluer et de continuer à faire en sorte que ça fonctionne. Mais j'ai pas forcément d'ambition, si c'était la question, de prendre un salarié ou de c'est pas forcément l'idée que je me fais des meubles de Néron, en tout cas, pas pour l'instant.
Oui, vraiment rester le côté artisanal, voilà.
Exactement.
Dans son atelier,
toute seule,
dans la poussière. J'imagine, vous travaillez avec un masque quand même, j'imagine.
Toujours,
quand même.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a un type de projet ou de meuble que vous rêvez encore de réaliser?
Ah, bonne question. Non, je crois pas. Enfin, après, en fait, je prends vraiment ce qui vient. Donc, j'ai pas de meuble où je me dis, ah, ça, j'aimerais vraiment. Là, on m'a contacté pour potentiellement faire une cuisine, chose que j'ai jamais fait. Une cuisine ancienne à refaire. Donc, ça me botte vraiment. Mais de là à dire que j'en ai rêvé, non. C'est juste que je trouve ça vraiment chouette qu'on me le propose, mais
d'accord.
Non, c'est tellement variable tout ce que je peux. Le champ des possibles est tellement vaste que je prends ce qui vient.
Ah oui, Alexis, vous avez une question.
Moi, j'ai fait un petit tour sur le site que je trouve très joli. Et c'est pourquoi vous donnez des prénoms à vos meubles?
Eh ben, c'est plus facile de les répertorier après. C'est bête, mais de dire, ah ben oui, le petit chevet, ben oui, le bleu. Oui, mais les bleus, il y en a 4. donc, ils ont tous un prénom parce que c'est plus facile de les répertorier, de les identifier. Et en plus, je trouve ça super parce que mes clients me donnent des nouvelles. Des meubles, on m'envoie des photos de Gaston Guéridon ou de Émile Le Chevet, et les clients sont super attachés à ça, donc ils ont tous un nom. Et je commence à être à court là.
Alors, il y a peut-être trouvé des noms exotiques.
Ouais, il y a l'interculturel. Tout d'un coup, là, tu trouves tout le champ des possibles.
Je vais me pencher là-dessus.
Exactement. Y a-t-il des erreurs fréquentes que vous voyez chez les gens qui tentent de rénover eux-mêmes leurs meubles?
Souvent, c'est qu'on prend pas le temps de bien faire les choses. Par exemple, l'étape du ponçage, elle est primordiale, elle est longue, elle est pas marrante, elle est poussiéreuse, mais elle est indispensable. Et ça, il y a beaucoup de gens qui passent un peu au-dessus et qui vont peindre le meuble directement sur le vieux vernis. Ça tient pas. Enfin, ça peut tenir, mais c'est pas terrible dans le temps. Moi, je les ai fait toutes ces erreurs, hein, donc je peux vous le dire. Je suis passée par tout ça parce que de base, je le faisais pour moi, hein, avant de me professionnaliser. Donc c'est souvent ça, c'est d'être encore une fois très pressé d'avoir le résultat final. Et c'est un peu dommage des fois, on oublie tout le chemin.
Si quelqu'un nous écoute et il a chez lui un vieux meuble, une commode, et il se dit « j'aimerais bien lui redonner vie », quel est le premier conseil que vous lui donneriez, en fait ?
Eh bien, si jamais c'est quelqu'un qui n'a vraiment aucune notion de bricolage, c'est peut-être déjà de regarder des vidéos sur YouTube. Alors, moi, je suis passée par là, hein, donc j'ai commencé par là et j'ai. Alors, des fois, il y en a qui sont pas terribles, faut faire attention. Mais si on a vraiment envie de le faire soi-même, peut-être commencer par se renseigner, participer aussi, pourquoi pas, à des stages, des ateliers. Moi, je compte en proposer à partir de l'année prochaine pour apprendre aux gens à rénover leurs propres meubles.
D'accord.
Et puis, si c'est trop compliqué, ben on fait appel à moi.
Voilà, directement. Et si quelqu'un a justement hésite encore à passer la seconde main pour son mobilier, c'est quoi la phrase à votre avis un peu choc ou promo qui donne envie de passer à l'action?
Une phrase toute faite là comme ça va être dur, mais surtout juste de prendre en compte le fait que avec la seconde main, on a du durable et de l'unique. Et on change de tous ces intérieurs ultra standardisés qu'on peut trouver un peu partout.
Ouais, c'est vrai.
Et on conserve l'histoire de vie de ce meuble, ce qui est quand même assez magique.
Ah bah, complètement. Vous avez un canal de prédilection pour qu'on puisse vous contacter ou pas?
J'ai un formulaire de contact via mon site internet qui est très bien fait et qui permet de glisser des photos. Comme ça, on peut montrer directement le meuble et moi, je peux répondre plus facilement. Donc, c'est ce que je privilégie le plus. Ou via Instagram, éventuellement.
Ou via Instagram. D'accord, ok. Eh ben, c'est super. On va déjà arriver à la fin de l'émission. Est-ce que voilà, décidément, l'ordinateur a un peu de mal aujourd'hui pour lancer les sons. Vous venez d'écouter effectivement les voix de l'écho sur Radio G, le 101.5 FM en DAB+ ou sur radio-g.fr. Un grand merci, Alexane Chevalier,
merci
d'être venu nous parler des meubles de Néron et de votre métier permettant la revalorisation des meubles. Merci Anne Texero et Alexis Desjeux pour vos chroniques. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Merci à l'association Chant contre Chant pour la production de cette émission. Si vous avez manqué le début de l'émission, le lien est en replay sur le site radio-g.fr. Merci de partager cette émission autour de vous et retrouvez tout de suite Fabien Bertrand pour l'émission des métiers de l'ombre et son invité du jour, Sarah Moing, qui est animatrice radio justement, mais à Chérie FM, donc une grande radio. On se retrouve le 7 janvier 2026 à midi 10 et en direct, et oui, c'était la dernière de 2025. Nous allons parler d'optimisation et d'harmonisation de votre intérieur. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et surtout, je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année. À bientôt.
Merci beaucoup Yves. Et oui, bonjour et bienvenue dans votre émission bimensuelle Les Métiers de l'Ombre, qui met en lumière, un mercredi sur deux, ces héros de l'ombre, invisibles mais indispensables à notre quotidien. C'est à 13h, juste après les voix de l'écho sur Radio G 101.5 FM. Et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. Mais qui sont-ils vraiment ? Eh bien, ce sont ces personnes qui exercent des métiers discrets, parfois méconnus, mais essentiels à notre quotidien. Derrière chaque entreprise, chaque association, chaque grand projet, il y a ces petites mains qui font toute la différence. Alors je vous propose de rencontrer l'un de ces passionnés, de découvrir son métier, son parcours et ce qui le fait vibrer. Un instant pour lever le voile et donner la parole toutes les deux semaines à l'un de ces mystérieux individus au micro de Radio G.